Mozart avec Sade par Philippe Solers. Texte, Mozart, extrait de la correspondance, Sade, lettre à Mademoiselle de Rousset. Réalisation, Didier Alvar, Jean Chapeau, Bruno Gagnère, Alain Nedelec, Marianne Manès.
Il est crevé comme un chien.
Sade avec Mozart, c'est la question de savoir quelles ont été les coulisses sexuelles à la fin du XVIIIe siècle, juste avant qu'intervienne une coupure qui fera considérer après la Révolution, toute cette époque avec une nostalgie dont on retrouve la trace partout. Il y a une lettre de Mozart à sa sœur, Maria Anna, en août 1784, qui je crois est sensationnelle. Mozart est déjà marié et sa femme est enceinte du fils qui va naître et qui s'appelle Karl. Et sa sœur se marie à ce moment-là. C'est une des lettres les plus étranges que Mozart ait écrite. Ma très chère sœur, il est grand temps que j'écrive. Si je veux que ma lettre puisse te trouver encore vestale. Quelques jours plus tard et... fini. Ma femme et moi te souhaitons tout le bonheur et la satisfaction pour ton changement de situation et regrettons seulement cordialement de ne pouvoir avoir la joie d'assister à ton mariage. Nous espérons cependant au printemps prochain très certainement t'embrasser soit à Salzbourg, soit à Sankt-Gilgen comme Madame de Sonnenburg ainsi que Monsieur ton époux. Nous ne plaignons maintenant que notre cher père qui va désormais vivre tout seul. Il est vrai que tu ne seras pas loin de lui et il pourra souvent se faire mener chez toi en promenade. Mais le voici lié de nouveau à cette maudite chapelle. Ah, si j'étais à la place de mon père comme je ferais ceci, je prierais l'archevêque, en considération de mes si longs services, de m'accorder à présent ma retraite et une fois ma pension reçue, j'irai chez ma fille et j'y vivrais en paix. Que si l'archevêque ne voulait pas agréer ma requête, je lui réclamerais mon congé et j'irai chez mon fils à Vienne. Et c'est là que je te demande par-dessus tout que tu prennes la peine de lui persuader cela. Et maintenant, je t'envoie encore, de Vienne à Salzbourg, 1000 bons vœux, et spécialement que vous puissiez vivre ensemble aussi heureux que nous deux. Accepte en conséquence, tiré du compartiment poétique de ma cervelle, le petit avertissement que voici. Et ici, c'est très curieux, parce que la lettre qui est parfaitement conventionnelle tourne à la poésie. La fin de la lettre est en vers. C'est un poème. Et c'est un message chiffré. D'un frère à sa sœur. Tu vas apprendre dans le mariage bien des choses qui étaient pour toi une demi-énigme. Tu vas bientôt savoir par expérience comment Ève, jadis, a dû s'y prendre pour mettre ensuite Cain au monde. Cependant, sœur, ces devoirs du mariage, tu les rempliras volontiers de bon cœur, car crois-moi, ils ne sont pas pénibles. Mais chaque chose a deux faces. Si le mariage apporte beaucoup de joie, il apporte aussi des soucis. Aussi, si ton mari te fait grise mine, sans que tu croies le mériter, un jour de méchante humeur, pense, ce n'est là que boutade d'homme, et dis, mon maître, que ta volonté se fasse le jour, mais la mienne, la nuit. Ton bien sincère frère, Wolfgang Amadeus Mozart. Voilà un renseignement précieux sur le règne de la nuit. Comment Ève, jadis, a dû s'y prendre pour mettre ensuite Cain au monde. C'est la scène primitive même. Ce petit épisode biblique, c'est le moment de l'extorsion de la reproduction elle-même. À partir de là, les corps s'engendrent et l'histoire s'ensuit. Ce que Mozart dit à sa sœur, c'est que sa volonté va se faire de nuit dans cette dimension de la reproduction. Le maître du jour, le mari, qu'il est lui-même. Il sait de quoi il parle. Est un fantoche. Il faut que les apparences soient sauves. Ça s'agite de jour. Ça fait comme si la volonté de la part de l'homme existait, mais en réalité, tout le pouvoir est nocturne, et c'est là que se trafique la production des corps humains. Ce clin d'œil d'un frère à sa sœur serait-il encore pensable aujourd'hui? C'est ce savoir sur ce règne nocturne qui agite la fureur de Sade. Et ce qui est très significatif, c'est que dans sa dénonciation permanente des persécutions de la présidente de Montreuil, la mère de sa femme et la mère de la sœur de sa femme qu'il a comme amie, épisode qui lui vaut tous ses ennuis, il ne peut en prison que se tourner lui aussi vers une sœur idéale, celle-là, bien réelle pourtant, qui fait partie de sa généalogie. On ne sait pas assez que Sade est le descendant de l'inspiratrice des sonnets de Pétrarque, la fameuse Laure. C'est dans sa famille. Tout ce qui a été écrit de plus amoureux pour une femme en Occident, à part la Béatrice de Dante, a été écrit pour une femme à partir de laquelle un jour il y a eu quelqu'un qui s'est appelé le marquis de Sade. Au passage, il faut rappeler ce que veut dire le mot Sade. C'est un mot qui a disparu du français, malheureusement. Il subsiste en tout cas négativement. Nous savons ce que c'est que d'être maussade. Mais nous ne savons plus ce que c'est que d'être sade. Et sade, ça veut dire agréable, savoureux. C'est le contraire d'être maussade. Plus le nom propre de Sade est devenu présent sous la forme d'un adjectif, car on a transformé ce nom en sadique, plus le mot Sade, qui voulait dire agréable et savoureux, s'est effacé. Pour ne pas savoir être Sade, tout ce qui est maussade pense que ce qui n'est pas maussade est sadique. Et il y a une lettre à Madame de Sade, sa femme, de 1779. Sade est en prison, comme d'habitude. Comme Mozart, qui a l'air, lui, libre de ses mouvements. Mais, d'une certaine façon, la musique implique moins de risques. Il lui écrit à propos de l'or. Toute ma consolation ici est Pétrarque. Je le lis avec un plaisir, une avidité qui ne peut se comparer à rien. Mais j'en fais comme Madame de Sévigné des lettres de sa fille. Je le lis doucement, de peur de l'avoir lu. Comme cet ouvrage est bien fait, l'or me tourne la tête. J'en suis comme un enfant. Je la lis tout le jour. Et la nuit, j'en songe. Écoute un rêve que j'ai fait d'elle hier, pendant que tout l'univers était à s'amuser. Il était environ minuit. Je venais de m'endormir, ses mémoires à la main. Tout d'un coup, elle m'a apparu. Je la voyais. L'horreur du tombeau n'avait point altéré l'éclat de ses charmes. Et ses yeux avaient encore autant de feu que quand Pétrarque les célébrait. Un crêpe noir l'enveloppait en entier et ses beaux cheveux blonds flottaient négligemment dessus. Il semblait que l'amour, pour la rendre encore belle, voulut adoucir tout l'appareil lugubre dans lequel elle s'offrait à mes yeux. Pourquoi gémis-tu sur la terre, m'a-t-elle dit ? Viens te rejoindre à moi. Plus de maux, plus de chagrin, plus de troubles dans l'espace immense que j'habite. Et le courage de m'y suivre ? À ces mots, je me suis prosterné à ses pieds. Je lui ai dit « Oh, ma mère !» Et les sanglots ont étouffé ma voix. Elle m'a tendu une main que j'ai couverte de mes pleurs. Elle en versait aussi. Je me plaisais, a-t-elle ajouté, à porter mes regards dans l'avenir lorsque j'habitais ce monde que tu détestes. Je multipliais ma postérité jusqu'à toi et ne te voyais pas si malheureux. Alors, absorbé par mon désespoir et ma tendresse, j'ai jeté mes bras autour de son cou pour la retenir ou pour la suivre et pour l'arroser de mes larmes, mais le fantôme a disparu. Il n'est resté que ma douleur. « O voi che travagliate, ecco il cammino. Venite a me, il passo altri non serra. » Bonsoir, ma chère amie. Je t'aime et t'embrasse de tout mon cœur. Et donc un peu plus de pitié de moi, je t'en conjure, car je t'assure que je suis plus malheureux que tu ne penses. Juge tout ce que je souffre et l'état de mon âme à tout le sombre de mon imagination. J'embrasse même les gens qui me boudent, parce que je ne hais en eux que leur tort. Ce 17 février, au bout de 2 ans d'affreuses chaînes.
Thank you.